Matignon a transmis des informations au parquet de Paris en lien avec l'affaire Benalla. Information au sujet de l'enregistrement dévoilé par Mediapart cette semaine. Nous vous donnerons les détails de ces révélations et nous poserons la question d'une éventuelle porosité entre politique et justice.
Le député Mathieu Orphelin quitte le groupe La République En Marche à l'Assemblée. Il évoque des avancées insuffisantes sur les enjeux climatiques. Réaction de ses collègues députés à suivre.
Dans cette édition, nous irons aussi à Londres prendre des nouvelles de Theresa May. La première ministre britannique se rend à Bruxelles aujourd'hui pour tenter de renégocier l'accord sur le Brexit. Un report du Brexit est fortement probable.
Et puis notre correspondant au Venezuela nous racontera comment les quartiers populaires lâchent peu à peu le président élu Nicolas Maduro.
Dans un quart d'heure après ce journal, Frédéric Seitz nous rejoindra. Il se penchera sur la délicate question du droit d'inventaire et sur le Parti socialiste notamment. L'affaire dite Benalla embarrassait jusque-là l'Élysée, le ministère de l'Intérieur, la préfecture de Paris. Voilà qu'elle touche Matignon et que l'on découvre de nouveaux protagonistes. Ce matin, le quotidien Libération révèle un nouveau partenaire d'Alexandre Benalla, un homme impliqué dans les affaires de l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron et il est directement lié à Matignon. Bonjour Maxime Fayolle.
Bonjour.
Qui est cet homme ?
Il s'appelle Chokri Wakrim, un militaire de 34 ans. C'est un très proche d'Alexandre Benalla, selon le quotidien Libération, qui a eu accès à des vidéos des deux hommes, notamment en train de tirer à la carabine. Alors cette proximité n'est pas qu'amicale. Chokri Wakrim serait également impliqué dans le contrat passé par la société de Vincent Kras avec l'oligarque russe Marmoudov. Il est en fait chargé de la sécurité de la famille à Monaco. Et si cette proximité interroge, c'est que la compagne de Chokri Wakrim n'est autre que Marie-Élodie Poitou, commissaire divisionnaire et surtout chef du groupe de sécurité d'Edouard Philippe.
Et cette responsable, Maxime, cette responsable de la sécurité de Matignon a même été entendue par les enquêteurs sur indication du cabinet d'Edouard Philippe. Matignon est ainsi suspecté d'ingérence dans ce dossier judiciaire.
Oui, car après les révélations de Mediapart sur la rencontre Kras-Benalla le 26 juillet, le directeur de cabinet de Matignon va confirmer à plusieurs médias deux choses. Un, le couple Poitou-Wakrim a vu Benalla fin juillet, sans donner de date précise. Deux, ce couple n'est pas à l'origine de ces enregistrements. Ces précisions, le directeur de cabinet les fait suivre au procureur de Paris, une procédure normale pour le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux.
Il s'agit simplement de partager en toute transparence avec la justice des éléments de réponse qui avaient été transmis à la presse et qui sont susceptibles de concerner une affaire judiciaire en cours. Je rappelle qu'en France, l'autorité judiciaire agit de manière indépendante et c'est la meilleure garantie de nos libertés, liberté des sources pour les journalistes, liberté tout court pour les concitoyens.
Il n'empêche, ces instructions ont conduit à l'ouverture d'une enquête. Cela pose question sur la porosité entre les pouvoirs exécutifs et judiciaires pour Katia Dubreuil, la présidente du syndicat de la magistrature.
Dans le contexte d'un pouvoir exécutif qui a sans complexe nommé le procureur de la République de Paris dans les conditions qu'on sait, et le Premier ministre a carrément dit que ça ne le dérangeait pas de nommer un procureur avec lequel il soit en ligne et à l'aise. Évidemment que la confiance dans l'indépendance de la justice dans ce contexte-là, elle est interrogée et c'est bien ce qui est problématique dans une démocratie.
L'enquête en tout cas se poursuit sans plainte pour l'instant de la part de Vincent Kras ou d'Alexandre Benalla pour atteinte à leur vie privée.
Merci Maxime Fayolle pour ces précisions ce matin. Et pendant que le sommet de l'État semble de plus en plus embarrassé par cette affaire et par ses ramifications, le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale perd l'un des siens. Le député du Maine-et-Loire, Mathieu Orphelin, annonce son départ du groupe La République En Marche. Départ que ce proche de Nicolas Hulot justifie dans un courriel adressé à ses collègues. Il évoque le manque d'avancée sur les questions environnementales notamment. Sa collègue députée LREM des Yvelines, Yael Braun-Pivet, se dit déçue de cette décision.
On perd quelqu'un de vraiment engagé, qui a des convictions, qui est sincère dans son engagement, et c'est peut-être la raison, une des raisons de son départ. Maintenant, ce que je vois, c'est que Mathieu est toujours député, donc il va pouvoir rester quand même engagé. Et moi, ce que j'en comprends, c'est qu'il veut poursuivre et même amplifier son action. Donc en cela, ça ne ressemble pas tout à fait au départ de Nicolas Hulot du gouvernement.
Le parallèle avec Nicolas Hulot, en tout cas, avait été vite fait par l'opposition hier. Ainsi, pour le député de la France Insoumise, Hugo Bernalicis, le choix de Mathieu Orphelin n'est pas surprenant.
Franchement, très honnêtement, je le côtoie assez régulièrement. Et dans bien des cas, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais encore dans ce groupe où là, il essaye de faire avancer la stratégie des petits pas? C'est un peu comme Nicolas Hulot qui, du jour au lendemain, pour pas blesser les gens, finalement, le fait comme ça, ça sort un peu de nulle part. Donc, je sais pas si c'était le meilleur moment politique pour le faire, mais il le fait et c'est bien, quoi. Ce qui me surprend pas, c'est qu'il s'en aille. La question, c'était quand est-ce qu'il allait s'en aller, quoi. Pour moi, en tout cas.
Des propos recueillis par Stéphane Robert. Lui aussi est un visage connu chez les écologistes. Il est en tout cas le visage de la lutte contre le fabricant de pesticides Monsanto en France. Nous l'évoquions hier ici même. L'agriculteur Paul François s'est dit hier devant la cour d'appel de Lyon blessé mais habitué au coup. Intoxiqué par un herbicide en 2004, il devra attendre le 11 avril prochain pour connaître la nouvelle décision de justice à propos de son procès contre Monsanto. Alstom doit se réinventer, aller de l'avant. Le PDG du groupe ferroviaire français réagit ainsi au veto de la Commission européenne hier. Elle a refusé qu'Alstom fusionne avec l'allemand Siemens en arguant d'une entorse aux règles de la concurrence. Pour Paris, ce rejet est une faute économique et politique. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire annonce que la France et l'Allemagne vont travailler ensemble pour modifier les règles de la concurrence en Europe, avec la peur toujours que la Chine ne soit plus rapide et n'investisse le marché européen. Berlin, de son côté, va un peu plus loin et amorce un vrai changement de politique, Audrey Tison.
Fini le laisser-faire. Le gouvernement allemand prépare depuis quelques mois un virage interventionniste. Il avait déjà renforcé ses possibilités de bloquer le rachat d'une entreprise allemande par des étrangers dans des secteurs hyper stratégiques comme la défense, les télécommunications ou l'électricité. Cette semaine, le ministre de l'économie est allé plus loin en lançant un plan dénommé Stratégie industrielle nationale 2030, sorte de réponse à la stratégie Made in China 2025 lancée par Pékin. Parmi les mesures envisagées, une stabilité des cotisations, un système fiscal compétitif. Mais la mesure la plus commentée, c'est l'idée de prendre des parts dans des entreprises allemandes. En clair, Berlin puiserait dans un fonds d'investissement public afin de protéger les fleurons de son industrie contre des OPA. Seraient concernés l'industrie numérique, l'intelligence artificielle, mais aussi des groupes d'intérêt national comme la Deutsche Bank ou Siemens. Toute ingérence publique doit être temporaire et limitée au strict nécessaire, précise tout de même le ministre conservateur Peter Altmaier. Ce changement de politique est diversement apprécié outre-Rhin. Les libéraux du FDP dénoncent une tentative de planification économique. Ces propositions sont jugées intéressantes par la Fédération des patrons de l'industrie, qui tique tout de même sur la prise de participation publique. Ce syndicat avait demandé une réaction des autorités après l'affaire KUKA, il y a 2 ans, une entreprise allemande de robotique rachetée par des Chinois.
L'Union européenne toujours, qui, sur le dossier du Brexit, contrôle un peu moins ce qu'il se passe en ce moment. Un report de la sortie du Royaume-Uni de l'Union est sérieusement envisagée. Aujourd'hui, Theresa May retourne à Bruxelles. La première ministre britannique doit rencontrer le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, pour, espère-t-elle, renégocier l'accord sur le Brexit. Le flou est toujours total, surtout au sein du gouvernement et du Parlement britannique, Antoine Gignot.
C'est une question d'arithmétique. Même si Theresa May arrache, par miracle, des concessions à Bruxelles, il faut ensuite les faire valider par le Parlement, en imaginant que les députés renoncent à leurs vacances et qu'ils travaillent le soir et le week-end, ils n'ont pas le temps de boucler l'ensemble des dossiers. Car le Royaume-Uni doit adopter au total 7 nouvelles lois sur la culture, la pêche, les services financiers ou encore le commerce, et il ne reste que 30 jours de session parlementaire. À titre de comparaison, il en avait fallu 40 pour transcrire dans le droit britannique les conséquences du traité de Rome, 40 également pour le traité de Maastricht. Mais le scénario peut rapidement devenir encore plus catastrophique. Theresa May est censée présenter le résultat de ses négociations aux députés la semaine prochaine. Si elle n'obtient rien, elle pourrait attendre le 25 février pour revenir devant le Parlement, entraînant un report inéluctable du Brexit. Plusieurs ministres veulent repousser la sortie de l'Union européenne à la fin du mois de mai. Si les chefs d'État des 27 refusent, le pays pourrait, le 29 mars, sombrer dans un chaos total. Le ministre du Commerce tire la sonnette d'alarme. Les chefs d'entreprise qui exportent vers l'Asie et le Japon notamment disent qu'ils ont besoin d'un préavis de 6 semaines avant de faire un quelconque changement d'accord commercial. Les gens disent toujours que les négociations aboutissent à la dernière minute, explique-t-il. Eh bien, cette dernière minute approche à grands pas.
Antoine Gignot à Londres pour France Culture.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido s'adresse aux militaires.
Et il leur demande de laisser entrer l'aide humanitaire dans le pays. Washington, allié de Juan Guaido, se dit d'ailleurs prêt à exempter de sanctions ces mêmes militaires qui rallieraient l'opposition. Sur place, d'ailleurs, le président élu Nicolas Maduro semble lâché de toutes parts et même par une partie de l'armée. Il perd aussi le soutien des quartiers populaires historiquement chavistes, comme l'a constaté notre correspondant Benjamin Delisle.
Tout a commencé le 21 janvier dans le quartier populaire de Cotissa, au nord de Caracas. Des militaires se soulèvent dans une caserne et appellent le peuple à descendre dans la rue. Elisabeth habite juste en face.
À 5h du matin, on a entendu une série de rafales très impressionnantes. Des coups de mitraillette très fournis. On s'est dit, il se passe quelque chose.
Le bruit du soulèvement militaire circule dans le quartier. Les habitants décident de soutenir les rebelles par un concert de casseroles. Une centaine d'entre eux descend même dans la rue en hurlant des slogans anti-Maduro. La police, qui boucle le quartier, répond à coups de gaz lacrymogène. Elisabeth filme, ces images font le tour des réseaux sociaux et dans les heures qui suivent, la révolte s'étend à presque tous les quartiers populaires de la ville.
Pour la situation pays, pour l'hambre...
À cause de la situation du pays, à cause de la faim, nous sommes fatigués. Nous n'en pouvons plus de ne pas avoir de médicaments. On s'est dit que c'était le moment. On a vu une lumière au bout du tunnel. Si même les militaires qui nous ont réprimés se soulèvent, il faut les soutenir.
Le mercredi suivant, chose inédite, les quartiers populaires descendent manifester en masse à l'appel de l'opposition. Rosaura est une ancienne chaviste de Petare, le plus grand bidonville de Caracas. Elle dit s'être réveillée avec son quartier le 23 janvier.
Le soir même, la police et la garde nationale sont venues dans le barrio. Ils ont voulu nous rendre la vie impossible en nous frappant, en nous tirant dessus. Mais on va continuer à marcher. Ça fait peur, mais on a vu trop de gens mourir de faim. Je préfère mourir par balle.
Plusieurs dizaines de personnes sont mortes à cause de la répression, mais rien ne va calmer ce soulèvement populaire qui s'est de nouveau exprimé le 2 février. Pas même ces aides sociales qui sont revenues ces derniers jours après des mois d'absence. Le 21 janvier 2019, le verrou de la peur a sauté dans tous ces quartiers.
C'était un reportage de Benjamin Delisle depuis Caracas. Et à propos du Venezuela encore, Jean-Luc Mélenchon en France a fustigé hier la reconnaissance par Paris de l'opposant Juan Guaido comme président par intérim. Jean-Luc Mélenchon, patron de la France Insoumise, qui était reçu hier à l'Élysée par Emmanuel Macron. Reçu également Marine Le Pen pour le Rassemblement National, pas en même temps, mais tour à tour dans le cadre du grand débat. Et ils ont délivré quelques messages, Rosalie Lafarge.
L'un comme l'autre, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon n'ont pas senti le président de la République totalement accroché à la nécessité d'organiser un référendum à l'issue du grand débat, et c'est tant mieux pour la patronne du Rassemblement National.
Aucun QCM référendaire ne réglera le problème de cette crise de représentativité. Par conséquent, je lui ai indiqué que la dissolution apparaissait le meilleur moyen pour que chacun puisse débattre à nouveau dans des conditions respectueuses de nos institutions, de la politique fiscale, de la politique sociale à mettre en œuvre, mais également de sujets aussi importants que l'immigration, que la souveraineté, que la désertification de nos territoires, pour pouvoir aboutir à une Assemblée nationale dans laquelle, enfin, les préoccupations des Français pourraient être exprimées.
Une idée partagée par le chef de file de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, souligne qu'on ne met pas au référendum des questions à choix multiples, ça n'existe pas dans la Constitution. Mieux vaut, selon lui, un référendum pour convoquer une assemblée constituante. Quant à la dissolution...
Si on en est à organiser un grand débat, c'est bien la preuve que les institutions ne fonctionnent pas ou que la représentation politique n'est pas représentative d'une certaine manière. Ce sont des choses qui arrivent. Quand ça ne fonctionne plus, le pouvoir pense qu'il est légitime. Les gens qui protestent pensent qu'ils sont également légitimes. Bon, on tranche, on vote. La dissolution paraît plutôt comme une solution d'apaisement.
Mais si les deux chefs de parti assurent s'être sentis écoutés par le président, Marine Le Pen doute d'avoir été entendue quand Jean-Luc Mélenchon pense, sur bon nombre de sujets, ne pas l'avoir convaincu.
Emmanuel Macron qui écoutera aujourd'hui les jeunes, sixième débat en perspective pour le chef de l'État. Il sera en Bourgogne et doit discuter en Saône-et-Loire à Étang-sur-Arroux de formation et d'avenir professionnel. Trois femmes porteuses d'implants mammaires portent plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Les plaignantes ont été victimes de cancer à cause de ces prothèses. Une enquête à découvrir en longueur ce soir sur France Culture dans le journal de 18h. En bref encore, elle serait sortie de l'hôpital le 30 janvier dernier sur décision médicale. Soit quelques jours seulement avant le drame. La principale suspecte de l'incendie de mardi à Paris a déjà effectué 13 séjours en hôpital psychiatrique. La précision vient du procureur de Paris. 10 personnes, je vous le rappelle, sont mortes dans cet incendie criminel. Nous en venons à la nuit de la solidarité à Paris, la deuxième du genre en 2 ans dans la capitale. La ville organise ce soir un recensement des personnes sans abri. Il y en avait 3035 l'année dernière. Cette année, 2000 bénévoles sont mobilisés et ils ne vont pas se concentrer seulement sur les lieux visibles de tous, Fiona Mogadam.
Les 1600 Parisiens et 400 travailleurs sociaux volontaires pour participer à ce comptage vont aussi arpenter les parcs et jardins. 75 immeubles du bailleur social Paris Habitat, des parkings seront également explorés, toutes les stations de métro et gares SNCF de Paris intramuros et les 13 hôpitaux parisiens, des endroits où les personnes sans domicile ont pour habitude de se réfugier et qui n'ont pas tous été explorés l'an dernier. La mairie souhaite ainsi avoir un recensement plus détaillé. Il n'y a pas que le comptage, un questionnaire sera proposé à chaque personne rencontrée. Il permettra de mieux connaître les besoins et les profils des sans-abri, des données analysées pour mieux adapter les politiques publiques et mieux cibler les dispositifs pour les personnes en situation de rue, précise la municipalité. Après le tout premier recensement du type en France l'an dernier, la mairie de Paris a ouvert 1500 places d'hébergement. Il y en aura 1800 d'ici le mois de mars, dont un certain nombre pour les femmes qui étaient 12% à la rue à Paris l'an dernier et demandaient des accueils réservés.
La pluie va toucher l'est du pays ce matin, Guillaume, laissant quelques rayons de soleil sur l'ouest de la France et sur la région parisienne. Mais une nouvelle perturbation va arriver par l'Atlantique ce midi, sachez-le. Comptez 5 degrés à Strasbourg et à Lyon ce matin, 8 à Paris, Lille et Nantes, 9 degrés à Bordeaux et sur la Corse.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal.